Vous écoutez Europe 1, il est midi. Le journal Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Un témoignage glaçant, celui de la fille de cette 131e victime de féminicide qui tourne en boucle depuis ce matin. Ça se passe dans le Bas-Rhin. La femme de 40 ans a reçu plusieurs coups de couteau au cou et au thorax. Nous sommes sur place, Pierre, dans un instant.
Une mobilisation nationale des étudiants alors qu'un jeune de 22 ans s'est immolé par le feu à Lyon vendredi. Il voulait dénoncer la précarité de la vie étudiantine. Le jour d'après, au Teil, en Ardèche, 300 sinistrés et la mairie à pied d'œuvre pour trouver des solutions. L'actualité, c'est aussi une alerte sur un nouveau type de drogue. On les appelle les drogues de synthèse. Elles sont vendues comme des paquets de bonbons, mais elles ont déjà causé la mort de 28 personnes par overdose, rien qu'à Paris depuis le début de l'année.
À chaque fois, le profil des jeunes qui font des overdoses, ce sont des gamins qui sont parfaitement intégrés, qui sont des gens en bonne santé, qui, parce qu'ils prennent un comprimé, peuvent faire une overdose mortelle.
Dans ce journal également, le dossier Thierry Breton. Il passe, mais de justesse, à Bruxelles. Précision dans un instant. Xavier Bertrand place Beauvau chez Christophe Castaner pour parler liste communautaire au municipal. Le procès 7LM sur les prêts immobiliers indexés sur le franc suisse. Tony Parker au Panthéon des San Antonio Spurs et... Le monde est stone, vous avez reconnu Starmania, la comédie musicale revient à Paris après 18 ans d'absence. La météo, Céline Dacosta, une après-midi nuageuse.
Oui, avec encore quelques averses, voire quelques coups de tonnerre près de la Manche. Des éclaircies, on en aura également. Elles seront plus larges entre les Pays de la Loire, la région Centre et l'Île-de-France. Grand soleil en revanche pour la région PACA et le sud de la Corse.
Merci Céline, on vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est un décompte insupportable, Pierre. Une femme de 40 ans a été tuée avant-hier soir par son mari.
À Oberhofen-sur-Moder, à côté d'Haguenau, dans le Bas-Rhin, c'est le 131e féminicide depuis le début de l'année. Arthur Elmbaché a recueilli le témoignage de Stella, la fille de la victime qui a vu sa mère mourir sous ses yeux.
J'ai été appelée par ma mère, qui m'a appelée à 23h pour me demander de l'aide, parce qu'il avait de nouveau caché un couteau. C'était pas la première fois, les gendarmes étaient au courant, ils n'ont jamais rien fait. Je suis arrivée, on a escaladé le portail, on a essayé de fracturer la porte pour pouvoir rentrer. On l'a vu lui mettre le dernier coup de couteau dans le cou. Ma mère a juste encore eu le courage de se lever et de venir dans la cour avec nous, et de s'écrouler. On était une quinzaine dans la cour, les voisins nous ont aidés, alors que lui était juste à côté armé. Il est resté à l'intérieur, dans la maison, il a décapsulé sa bière et a bu son coup. Il a pris le temps de se laver les mains, faire un peu le ménage et de boire un coup. Il avait le regard vide, regard de tueur. Il s'en foutait, royalement.
C'était quoi leur relation ?
Chaotique. Lui, alcoolique, buvait du matin au soir. Et au moment où il y avait de l'alcool, il y avait des coups. Ma mère a vécu ça pendant 3 à 4 ans, sans jamais en parler, jusqu'à cette année où je lui ai dit qu'elle n'avait plus le choix. Elle en a parlé, elle est allée à la gendarmerie, elle a déposé des mains courantes, elle a déposé une plainte. Les gendarmes sont encore intervenus vendredi soir. Ils ont raccompagné ma mère sur le canapé pour qu'elle aille se coucher. Et bonne nuit madame. Et aujourd'hui, il n'y a plus de bonne nuit madame. Ma mère était têtue, je lui avais demandé plusieurs fois de venir chez moi. Qu'elle soit en sécurité, mais elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu.
Arthur Mbaché, vous êtes sur place dans ce village du Bas-Rhin. C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. L'époux de cette femme est en garde à vue. La victime voulait divorcer et avait donc déposé plainte contre son mari.
Oui, il y a eu d'abord ses mains courantes, puis donc une plainte pour violence et menace de mort. C'est vrai que la situation de ce couple était connue. La famille savait, les amis savaient, les voisins savaient, les gendarmes aussi savaient. Et on l'a entendu un instant, les gendarmes sont intervenus 48 heures avant le meurtre, ici, dans cette maison devant laquelle je suis, avec encore des traces de sang sur le sol de la cour. Ils sont intervenus il y a moins d'une semaine, donc, pour déjà des violences. Et ce soir-là, et ça va faire écho évidemment avec ce qui se discute en ce moment dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes, ce soir-là, ils ont suggéré à cette femme de partir. Mais, nous a dit sa fille, ma mère estimait qu'elle était chez elle, elle a refusé.
Merci Arthur Elmbaché en direct de Oberhofen-sur-Moder dans le Bas-Rhin pour Europe 1.
Vendredi, Pierre, un jeune de 19 ans s'immolé par le feu devant le Crous de Lyon.
Et ses motivations, on les connaît, il voulait dénoncer la précarité de la vie étudiantine. Il faut voir que ce jeune ne percevait plus de bourse car il triplait sa deuxième année de licence. Il se trouve actuellement toujours entre la vie et la mort à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon.
Jean-Luc Beaujean, vous êtes devant le Crous de Lyon et ce sont tous les étudiants de France qui se mobilisent pour lui rendre hommage.
Oui, et ce matin à Lyon, ils étaient un millier qui sont restés à peu près une heure devant les locaux du Crous, d'abord et avant tout pour soutenir le jeune homme de 22 ans qui s'est immolé vendredi et qui est toujours hospitalisé, brûlé à plus de 90%. Des étudiants qui ont ensuite lu la lettre que le jeune homme a postée sur Facebook juste avant d'accomplir son geste fou. Il y dénonçait l'organisation par les différents gouvernements de la précarité étudiante, un combat partagé par Bastien Pereira, militant du syndicat Sud Éducation.
On attend que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités par rapport à ce problème qu'est la précarité étudiante. Il n'est pas normal que des étudiants doivent en venir à de telles extrémités pour faire entendre l'absurdité kafkaïenne de ce système qui broie les étudiants, qui précarise tous les individus et qui dégrade nos conditions matérielles d'existence.
Alors présente également Laetitia, la petite amie de l'étudiant, qui a rappelé dans quelle galère il vivait depuis plusieurs mois.
Il a redoublé à deux reprises sa licence de sciences politiques. Donc il a perdu les bourses, il a perdu le bénéfice de son logement Crous, mais il n'avait plus de revenus pour vivre. Voilà. Il a fait ça pour mettre en lumière ce qui se passe pour des milliers d'étudiants, je pense, en fait, pour réveiller les consciences.
Alors réévaluer les bourses, ne plus conditionner leur obtention aux résultats scolaires, et même création d'un salaire étudiant, autant de propositions faites dans ce rassemblement par les étudiants lyonnais à l'adresse du gouvernement.
Merci Jean-Luc Boujon, en direct de Lyon pour Europe 1.
Il est midi 6, c'est la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Et c'est le jour d'après Auteuil en Ardèche. Pierre, 300 habitants sont toujours sinistrés.
Et c'est surtout le quartier de la Rouvière qui est impacté. Nathalie Chevance, vous vous trouvez sur place là-bas. C'est une dizaine de maisons qui se sont partiellement écroulées.
Oui, et ce matin, les sinistrés encadrés par les gendarmes sont revenus sur les lieux devant des tas de pierres, des dégâts qui se sont encore aggravés durant la nuit. Jean-François ne peut plus habiter dans sa maison, trop abîmée. Il a dormi chez ses frères et ne peut même plus rentrer chez lui pour récupérer des affaires. Trop dangereux. Il ne peut que regarder sa maison de loin.
D'abord, elle est inhabitable et on ne nous autorise pas à aller chercher quoi que ce soit. Tout le doublage a carrément explosé, comme si il n'y a plus rien. C'est tout fissuré partout. Mini cataclysme, quoi. Une partie de la maison est tombé encore cette nuit.
Donc vous avez bien fait de pas dormir là.
Exactement, oui. Ça fait peur. Ça craque de partout, quoi. On repartira de zéro.
C'est encore la sidération.
Peut-être.
Alors effectivement, les sinistrés les plus touchés ne réalisent encore pas toujours, car pour l'instant, il faut gérer l'urgence, le matériel, contacter les assurances. Une cellule psychologique a été mise en place. Le docteur Karine Bienassi recueille les témoignages.
Des inquiétudes sur la maison. Est-ce que je vais pouvoir regagner ma maison? Ou alors d'avoir laissé des animaux? Et donc ça peut procurer des états de panique. Des palpitations, des sueurs, un état éventuellement de confusion. Le fait de vouloir retourner sur place alors que la prudence demandait à ne pas y aller est difficile de faire entendre éventuellement à la personne qu'il ne faut pas y aller, quoi, et qu'il ne faut pas retourner dans une maison fissurée.
Et depuis ce matin, ils sont des dizaines et des dizaines de sinistrés à patienter devant la mairie pour se faire connaître en attendant le passage des experts qui ont commencé leur travail d'inspection à travers la ville.
Merci Nathalie Chevance, au Teil en Ardèche pour Europe 1.
On va vous parler maintenant des drogues de synthèse. Ce sont de nouveaux types de stupéfiants et tenez-vous bien, ils ont déjà causé la mort de 28 personnes par overdose à Paris depuis le début de cette année.
Mais comme tristement la drogue suit aussi les phénomènes de mode, la cocaïne, c'est has-been, du coup, voici ces nouveaux cachets. Ils sont pas chers, ça coûte en moyenne 10 euros pour un effet très vite euphorisant, désinhibant. C'est vendu véritablement comme des bonbons. Et le commissaire Christophe Descom, patron de la brigade des stupes, nous met en garde contre ce fléau.
Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours un décalage extrêmement fort entre l'image de certaines drogues qui peuvent à un certain moment apparaître comme des drogues festives, des drogues presque attractives, des drogues récréatives, et puis la réalité concrète qui est qu'on a vraiment affaire à des drogues qui sont des drogues qui tuent. Et moi, si j'avais le pouvoir de régler instantanément un problème, ce serait celui des drogues de synthèse, parce que très clairement, il y a un danger majeur pour la population avec une consommation qui augmente très régulièrement et qui fait qu'on fait un travail répressif fort avec des vrais réseaux structurés qui ont des armes, qui ont d'autres drogues, qui ont des caches aménagées. Voilà, on est vraiment, c'est pas ludique, c'est vraiment une drogue qui est aux mains de gens qui sont de vrais délinquants et de vrais voyous. Mais cette drogue là, pour l'instant, elle est consommée de plus en plus parce que on fait de la prévention, mais qu'elle touche pas encore le public. À chaque fois, le profil des jeunes qui font des overdoses, des accidents sérieux après avoir consommé une drogue de synthèse, ce sont des gamins qui sont parfaitement intégrés, qui sont des gens en bonne santé, qui parce qu'ils prennent un comprimé peuvent faire une overdose mortelle.
La mise en garde du commissaire Christophe Descom, patron de la brigade des stupes, ce matin dans la matinale avec Mathieu Béliard. Et puis vous le savez, plus de 760 kilos de cocaïne ont été récupérées sur le littoral atlantique. 6 communes ont interdit l'accès à leur plage. Ça n'a pas empêché un petit malin de 17 ans d'aller se servir. Il a été interpellé à Lacanau hier en possession de 5 kilos de cocaïne.
Il est midi 10.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Le hockey de Bruxelles pour Thierry Breton. Mais ça passe de justesse. A tout de suite. Il est midi 12, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Et c'est donc un tout premier feu vert pour Thierry Breton, Pierre, à la Commission européenne.
L'ancien ministre de l'économie, ex-patron d'Atos, passait l'examen des conflits d'intérêts. Alors il faut savoir, et on vous le rappelle, c'est le deuxième choix d'Emmanuel Macron après l'échec de Sylvie Goulard. Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1, premier OK, premier feu vert donc, mais ça passe ric-rac, hein.
Oui, les élus de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen ont donné leur feu vert, mais c'est très juste. 12 voix pour, 11 voix contre. À titre de comparaison, les candidats roumains et hongrois ont, eux, été validés à l'unanimité ce matin. Thierry Breton avait pourtant montré patte blanche. Il a vendu toutes ses actions. Il ne touchera pas sa retraite s'il devient commissaire. Et enfin, il a promis de se récuser chaque fois qu'Atos, son ancienne entreprise, serait impliquée dans un dossier qu'il devra superviser. Mais la gauche et les Verts auraient voulu des engagements plus. Ils estiment qu'Atos est trop impliqué dans la cybersécurité ou encore l'intelligence artificielle, domaine qui dépend du portefeuille attribué à Thierry Breton. La droite a voté avec les centristes pour refuser ces engagements supplémentaires. C'est donc une première aide franchie pour le candidat français, mais il faut se souvenir que Sylvie Goulard aussi avait réussi cette étape, mais les questions de conflit d'intérêts avaient ressurgi de plus belle lors de son grand oral sur le fond. Ce face-à-face décisif entre Thierry Breton et les parlementaires, qui va durer 3 heures, lui, il est programmé pour jeudi après-midi.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
La politique avec la polémique autour des listes communautaristes en vue des élections municipales.
Mais ce matin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a invité plusieurs personnalités politiques à dialoguer avec lui sur le sujet. Parmi elles, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui lui veut justement qu'on sorte de la polémique.
Nous n'avons pas envie que la question de ces listes communautaristes, ça devienne le feuilleton des élections municipales. Et il y en a qui n'attendent que cela. Nous sommes dans une logique, pour mieux prévenir que guérir. Et il est possible d'agir dès maintenant. Le gouvernement est prêt à avancer là-dessus sur la question d'une circulaire au préfet, en indiquant clairement ce que peuvent être les troubles à l'ordre public au moment de la constitution d'une liste, et notamment avec la propagande électorale. La circulaire sans une loi, pour nous, ça ne marchera pas. Ça ne permettra pas justement à l'État d'être aussi efficace qu'il doit être. Entendons-nous bien, certains voudront présenter des listes, mais d'autres vont aussi chercher à imposer des candidats sur les listes. Et des candidats qui voudront quoi ? Imposer notamment des créneaux réservés dans les piscines. Vous aurez ensuite la question dans les cantines des menus, des repas qui sont servis. C'est tout cela que nous voulons éviter et nous pensons qu'on doit pouvoir agir avant.
Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, au micro européen de Jean-Rémy Baudeau.
C'est un procès qui s'ouvre aujourd'hui et qui avait plongé dans les dettes des milliers de foyers.
Oui, le dossier CTLM, filiale de la BNP, il y a un peu plus de 10 ans, des ménages aux revenus moyens avaient souscrit à des prêts immobiliers qui étaient indexés sur le franc suisse. Le problème, c'est que la devise a flambé depuis. Aujourd'hui, maître Charles-Constantin Vallet, l'avocat de certaines parties civiles, elles sont 2200 au total, demande réparation.
La réalité, c'est qu'effectivement, ils pensaient faire un placement de bon père de famille et ils se retrouvent avec une dette sans limite. L'emprunteur qui avait emprunté 130 000 euros en 2008 doit aujourd'hui environ 160 000 euros alors qu'il a déjà remboursé 90 000 euros à la banque. Pour eux, c'est une forme d'escroquerie. Chaque fois qu'une nouvelle crise économique survient, on découvre que les banques ont commercialisé des produits sans avertir les consommateurs des risques. Chaque fois, les banques viennent nous promettre que ça n'arrivera plus et finalement, on s'aperçoit que ça revient. Seules des sanctions pénales lourdes seront de nature à décourager ces professionnels d'agir de la sorte. Du point de vue des consommateurs eux-mêmes, ils attendent de pouvoir être indemnisés correctement pour sortir de ces situations, pour pouvoir vendre ce bien immobilier, pour pouvoir retrouver une vie normale, pouvoir profiter de leur retraite, pouvoir aider leurs enfants, faire d'autres projets. Mais ça fait 10 ans qu'ils ne peuvent plus faire aucun projet et qu'ils sont bloqués en attendant qu'on puisse les sortir de ce prêt.
Maître Constantin Vallet avec Salomé Legrand.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 16, la suite de votre journée. journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Et si nous allions au cirque, Pierre ?
Oui, mais alors la question, c'est avec ou sans animaux, sachant que bien sûr, les enfants raffolent des bêtes, mais que de l'autre côté, eh bien, Paris veut interdire les animaux sauvages dans les cirques, réponse à toutes ces polémiques sur l'esclavagisme des lions, des éléphants, etc. La délibération sera donc soumise au vote au Conseil de Paris à partir d'aujourd'hui, ça dure 2 jours. Si elle est votée, l'interdiction prendra effet dès l'an prochain. Virginie Salmen.
En ce moment, à Paris, aucun cirque ne présente de numéro avec des animaux sauvages. Mais devant le cirque d'hiver, le public semble l'ignorer.
J'attends de voir des animaux, principalement pour les enfants.
Quoi par exemple comme animal ?
Des éléphants.
Et toi, tu sais ce que tu vas voir ?
Des hippopotames.
Pourtant, 65% des personnes interrogées se disent contre les animaux sauvages dans les cirques, selon le dernier sondage d'Association pour le bien-être animal, tendance qui sous-tend le vote à la mairie de Paris. C'est peut-être vrai pour les Français en général, mais pas pour les amoureux du cirque, selon Rémi Bécuve, du cirque Arlette Grus, qui va s'installer fin novembre sur la pelouse de Reuilly à Paris, avec 6 lionnes dans son spectacle, lui aussi à ses chiffres.
On a fait un sondage sur l'accueil du public, les conditions, etc. etc. et est arrivé loin devant les autres le numéro de lion. Donc les gens réclamaient des fauves. Sur 3000 questionnaires, on a eu plus de 75% qui ont répondu les fauves en 1. Donc si à un moment donné l'opinion publique ne voulait plus des animaux sauvages dans les cirques, eh ben je ne pense pas qu'on serait complet à chaque spectacle.
Et pour 2020, le cirque Bouglione promet de son côté un spectacle avec des éléphants. Le combat continue, ils ont l'intention d'attaquer la mairie de Paris si l'interdiction est votée.
Virginie Salmen.
Il est midi 18.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Tony Parker au pinacle chez les Spurs et le retour de Starmania. A tout de suite.
Il est midi 21, la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Tipeee, alias Tony Parker, entre au Panthéon des San Antonio Spurs, Pierre.
Hommage à l'immense basketteur français à la retraite depuis peu. Tony Parker a vu cette nuit son maillot accroché au plafond du AT&T Center de San Antonio, ce qui veut dire que plus personne ne portera son numéro 9. C'est un honneur rare et en fait, c'est même une première pour un Français en NBA. Aux États-Unis, notre correspondant Xavier Yvon.
D'un coup, toute la salle se lève. 18 000 visages se tournent vers le plafond du stade. Numéro 9, pour toujours, clame le speaker. Lentement, le voile se lève sur l'immense maillot blanc frappé du numéro de Tony Parker. Le basketteur français, les yeux brillants, debout au centre du parquet, entre à ce moment-là dans la légende des Spurs. San Antonio sera toujours ma maison, avait dit quelques instants plus tôt Tony Parker devant des fans en transe. Leur mot d'ordre ce soir, c'était
« Merci Tony ».
« Merci Tony ».
« Merci Tony ».
Merci Tony, inscrit sur les murs, les écrans, les t-shirts distribués à chaque spectateur. Ses amis sportifs français sont venus aussi pour cet événement unique. Teddy Riner, Thierry Henry et la bande des basketteurs Boris Diaw, ex-coéquipier chez les Spurs et chez les Bleus. Il faut comprendre l'importance d'un tel accomplissement aux États-Unis, explique-t-il.
Et tous les joueurs qui viendront, même dans 50 ans, quand les Spurs joueront, verront ce maillot-là. Donc tu marques l'histoire. Mais pas seulement dans les livres, il y a vraiment une présence physique qui est là, donc c'est vraiment un honneur particulier.
Et un autre ami basketteur, Nicolas Batum, renchérit, c'est comme si en foot, on n'avait plus jamais donné le numéro 10 de Platini. San Antonio, Xavier Yvon, Europe 1.
Starmania, Pierre, oui, Starmania est de retour dans une toute nouvelle version.
Et pour en parler, notre ami Thierry Geffrotin, bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Une nouvelle mouture qui se jouera à la scène musicale. Alors je me tais.
Tout le monde change de trottoir, on n'a pas l'air viril.
Alors évidemment, chacun a sa comédie musicale préférée, mon cher Thierry, mais Starmania, ça reste universel.
Mais quand il voit du sang sur nos lames de rasoir.
Eh oui, même si vous n'avez jamais vu Starmania, vous connaissez forcément cette chanson immortalisée par Daniel Balavoine il y a 40 ans. Daniel Balavoine, France Gall, Diane Dufresne, Fabienne Thibault, Nanette Workman, c'était le premier casting de cet opéra rock qui n'a pas été donné à Paris depuis 2001. Starmania de retour en septembre 2020, ce sera d'abord à la scène musicale à Boulogne-Billancourt avant une tournée. L'annonce a été faite dans le journal Le Parisien par Luc Plamondon, l'auteur du livret, les musiques étant, faut-il le rappeler, de Michel Berger. Et pour cette nouvelle production, la mise en scène est confiée à Thomas Joly. Les amateurs de théâtre et d'opéra le connaissent. Ce sera la 7e version de Starmania avec un nouveau casting évidemment, mais avec les arrangements musicaux initiaux. Le livret va être retravaillé, même si les thèmes évoqués sont toujours d'actualité. L'écologie, les attentats, la place de la télé, le monde qui bouge, le monde qui est stone.
Merci Thierry Geffrotin. On pourrait écouter ça pendant des heures.
Des heures.
Mais le problème, c'est que... c'est pas un problème. La France bouge, elle arrive. Thierry Geffrotin, j'avais une question pour vous. Rasseyez-vous deux secondes. Quelle différence faites-vous entre opéra rock et comédie musicale?
Oh là là, oui, alors,
vous avez deux heures
pour réfléchir. Oui, j'ai deux heures. On va dire que c'est plus européen que la comédie musicale qui nous vient de Broadway.
Eh bien, c'est une réponse. Merci Thierry.
Merci Thierry, merci Pierre. Rendez-vous 13h pour un nouveau journal.
Il est midi 25. Europe.